Radio-Télévision Suisse. RTBF.
Radio France.
Radio-Canada.
Et bonjour à tous, bienvenue dans la librairie francophone. Aujourd'hui, trois grands voyages culturels. Nous irons en Chine, au Maroc et en Russie avec un roman, un essai, une BD et un livre de photographie. Prix Goncourt 2016 pour un roman qui a connu un grand succès. Leïla Slimani revient avec deux ouvrages inattendus, un essai sur la sexualité au Maroc et une bande dessinée sur le même sujet. Bonjour Leïla Slimani.
Bonjour.
Qu'est-ce qui vous a incité à porter cette parole militante autour de cette frustration sexuelle au Maroc ?
Ben, ça faisait des années que j'avais le sentiment que la question du corps de la femme et de manière plus générale la question de l'intime, de la sexualité, de la liberté sexuelle était un nœud autour duquel allait se jouer finalement l'avenir, à mon avis, de la société marocaine, et que le projet de société qu'on allait faire finalement il tournait autour de ces questions-là. Ouais. Et donc j'ai eu envie d'entendre les Marocaines, de recueillir leurs témoignages, leurs confidences sur leur intimité.
Parole de femme, effectivement. Témoignages édifiants et portraits d'une société hypocrite, schizophrène. Ce sont vos mots, vous allez tous forcément réagir. Dans l'actualité littéraire, le nouveau roman de Jean-Philippe Toussaint est un événement. Nous irons en Chine avec lui, porter un regard singulier sur la création, mais aussi sur les hasards de la vie. Et puis nous irons en Russie avec l'auteur Olivier Rollin et l'acteur, réalisateur, photographe Vincent Pérez. Une Russie populaire racontée en textes et en images.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
Et comme d'habitude, quatre libraires sont en multiplex avec nous pour représenter la France. C'est Grégoire Courtois qui est à Auxerre, pas très loin de sa librairie oblique, dans les studios de France Bleu Auxerre, que l'on salue au passage. Bonjour Grégoire.
Bonjour.
Comment allez-vous ?
Moi, ça va très bien.
C'est bien, plein de boulot, des signatures dans la librairie, tout ça.
Oh, à fond. on n'arrête pas le mois d'octobre, est terrible.
Bien, au moins un libraire qui ne se plaindra pas, c'est parfait. Marie-Noëlle Blé est libraire à Montréal dans la librairie Raffin et ça se passe bien aussi pour elle. Bonjour Marie-Noëlle.
Bonjour Emmanuel.
Tout va bien à Montréal ?
Absolument.
Bien, bonjour Dominique Bressou.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes libraire dans la librairie Une Petite Prose à Boudry. Et enfin en Belgique, c'est le retour d'Annick Dor, libraire à la Hulpe dans la librairie de la Mazrine. Bonjour Annick.
Bonjour Emmanuel.
Bon, merci d'être avec nous tous les quatre. Vous interviendrez bien sûr tout au long de cette émission. Bonjour Vincent Pérez.
Bonjour.
Vous avez immortalisé quatre lieux en Russie, des scènes de vie, des portraits de citoyens. On se croirait parfois dans un autre monde d'ailleurs. On décryptera tout à l'heure avec vous et avec Olivier Rollin qui est à vos côtés en plateau. Mais on commence toujours par une histoire personnelle étonnante. Vous avez carte blanche, Vincent, que voulez-vous transmettre ?
Ouais, comme on est un petit peu en Russie, j'ai pensé à une histoire russe.
Oui, très bien.
Il y en a beaucoup, donc j'ai dû choisir. Je tourne un film en 2010 qui s'appelle Code Apocalypse. Ce n'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est un film qui a été un énorme succès en Russie et en Chine. Ouais. Et deux jours avant le tournage, je commence à entendre une rumeur sur le plateau et j'entends FSB. Et puis, à un moment donné, on m'a parlé d'un rendez-vous important, que j'avais un rendez-vous important. Et donc, j'embarque dans une limousine qui m'emmène devant le bâtiment, un des trois bâtiments du KGB, du FSB.
Ah oui.
Voilà.
Les services secrets.
Et j'avais rendez-vous avec le colonel Yushakov,
ah oui,
très haut placé, donc, au FSB. Donc, je me retrouve dans l'ascenseur avec mon interprète qui, en sueur, qui tremble. On s'arrête au cinquième étage. Je me souviendrai toujours de cette sortie d'ascenseur où, d'un coup, on était dans les années 50, tout était en bois avec la secrétaire assise derrière un bureau. Et là, elle m'attendait, donc, le colonel Yushakov, avec qui donc, nous avons parlé de cinéma et du film. Et une des questions qu'il travaillait, c'était comment j'allais jouer un méchant, parce que j'avais l'air de quelqu'un de gentil.
Et donc, on a
discuté pendant une heure, et puis j'ai découvert, en fait, que le film, le FSB, fournissait énormément de matériel, notamment de militaires, etc.
Ouais, donc il vérifie un
donc
petit peu quand même.
C'était assez, ouais, un moment assez incroyable.
Ouais, ouais. Ouais. Sous des airs, comme ouais, ça, de fan de cinéma, il a bien surveillé ce que vous avez fait. Merci pour cette histoire. Vincent Pérez est dans la librairie francophone cette semaine. « Et bonjour Jean-Philippe Toussaint.
Bonjour.
Vous êtes l'écrivain et réalisateur belge qu'on ne présente plus ou presque. On vous connaît en tant qu'auteur pour votre style minimaliste et votre goût pour le banal ou encore pour les hasards de la vie. On va y revenir ensemble. Dans ce nouveau roman Made in China, vous racontez vos séjours en Chine avec votre ami et éditeur chinois Chen Tong. Là-bas, vous vous laissez porter par les événements quotidiens et vous évoquez l'odeur de la Chine dès les premières pages. Qu'est-ce que c'est l'odeur de la Chine?
C'est une odeur que j'essaye de définir. J'ai beaucoup travaillé. Je voulais tout de suite introduire le lecteur dans cet univers chinois, dans cette nuit de Canton où il fait 30 degrés quand on arrive même fin novembre. Et dès qu'on sort de l'aéroport, qu'on quitte l'air conditionné, les portes s'ouvrent et on a cette odeur qui est une odeur un peu de légumes bouillis, de légère transpiration. Mmh. Et on se dit, je suis en Chine.
On a l'ambiance des rues de Canton qu'on a retrouvées dans nos archives, avec cette ambiance comme ça, qui vous rappelle forcément quelque chose.
Évidemment, oui. C'est une des choses les plus saisissantes quand on est en Chine, c'est évidemment les bruits, les odeurs, l'activité, le chaos, le dynamisme. Mm-hmm. Enfin, c'est assez fascinant l'énergie qui se dégage de la Chine et en particulier du sud de la Chine.
Oui. Alors vous aimez bien y être en Chine, vous racontez plusieurs séjours. Il n'y a pas vraiment d'histoire dans ce roman, pas de fiction, c'est une déambulation dans cette Chine, à Canton, là justement où on est en ce moment, qui tourne autour des repérages et du tournage d'un film d'art. The Honey Dress, c'est du réel que vous romancez. Alors la littérature autorise tout, vous l'expliquez ça, vous pouvez décrire ce que vous voulez, imaginez les événements que vous souhaitez. À quoi sert le réel si la littérature dépend de l'imagination?
C'est un excellent prétexte, le réel, et notamment toutes mes expériences chinoises, qui sont des expériences vécues. Le narrateur porte mon nom et a vécu exactement ce que j'ai vécu en Chine. Mmh. À partir de là, j'utilise les outils du romancier. Je me sers de personnes réelles.
Très bien.
Et donc je transforme cette réalité pour en faire quelque chose de littéraire.
Vous la modelez en quelque sorte.
En effet.
Et ce réel, il est soumis au hasard. C'est, dites-vous, très important d'intégrer la notion de hasard dans une création artistique ou littéraire.
Moi, j'ai toujours eu la tentation de tout contrôler. Peut-être ce qui m'échappait était encore plus intéressant que ce que je contrôlais. Et donc, je me suis dit, un peu comme un fantasme, il faudrait que je contrôle ce qui m'échappe. Mais ça, c'est pas possible. Mmh. Donc, ce que je peux faire, peut-être, éventuellement, c'est accueillir l'imprévu, accueillir l'accidentel, accueillir le hasard, qui va apporter justement cette vie. Et en Chine, elle est en permanence là.
Leïla Slimani, qui est face à vous, a accepté de lire un passage de votre livre qui évoque justement cette notion de hasard, Jean-Philippe Toussaint. Voici donc, c'est une surprise pour vous, hein. Donc il se recroqueville comme ça, ne soyez pas intimidés, hein, tout va bien. Elle est ravie de le faire, on est ravis de lui avoir proposé. Voici donc un extrait de Made in China, c'est le titre de votre roman, Made in China, franchement, Jean-Philippe, mais bon, c'est un autre problème. Lu sur la musique de votre film, The Honey Dress.
Chaque livre achevé est une somme de hasards infinitésimaux qui sont comme autant de fleurs recueillies sur le bord de la route, que l'on cueille en chemin pour les intégrer à la pâte romanesque en cours. Ces multiples hasards qualifient l'œuvre, ils l'émaillent, ils la colorent, mais ils ne modifient pas essentiellement sa nécessité. J'ai toujours été fascinée par cette part irréductible de hasard qui entre nécessairement en jeu dans la réalisation de l'œuvre d'art la plus concertée. Il y avait déjà, dans Nu, une réflexion sur la place du hasard dans la création artistique. La réflexion partait du constat que, dans la dualité inhérente à la création, ce qu'on contrôle, ce qui échappe, même si tous nos efforts conscients portent sur ce qu'on contrôle, c'était peut-être ce qui nous échappe qui est le plus intéressant.
Vous êtes d'accord avec ça, Leïla Slimani? C'est ce qui nous échappe qui est le plus intéressant, ou vous êtes partie, vous aussi, du réel?
Oui, j'aurais aimé pouvoir écrire ce texte, mais il dit ce que je pense. C'est-à-dire que parfois, on se pose la question, est-ce que je regarde le réel et il m'apporte des choses parce que je suis obsédée par une idée et que finalement ce hasard arrive, parce qu'en fait j'arrive à le voir dans la mesure où je suis obsédée par mon idée romanesque, ou est-ce que c'est véritablement du hasard et que le réel m'offre un cadeau que je n'ai même pas demandé, il apporte quelque chose à mon roman et ça c'est génial.
Jean-Philippe Toussaint, s'il n'y a pas de hasard, à quoi faut-il croire?
Je crois qu'il faut croire à la fois à soi-même, à une nécessité, à une fatalité, mais que cette fatalité est nourrie de tous les fortuits qui nous arrivent. Mais c'est aussi vrai dans la création artistique que dans la vie. À chaque moment de la vie, on est confronté à des minuscules hasards qui peuvent complètement bouleversé le sens de notre vie. Oui. Mais c'est pas parce qu'on est soumis à tous ces hasards qu'il n'y a quand même pas une nécessité, il n'y a pas quelque chose qui nous porte et que nous maîtrisons quand même. Et donc, je crois que chaque œuvre, chaque roman que je fais n'est pas complètement livré au hasard. Il y a une fatalité, il y a quelque chose qui s'exprime et qui exprime ma personnalité ou la personnalité de Layla quand c'est les romans de Layla ou la personnalité d'Olivier Rollin quand c'est les romans d'Olivier
Rollin. On apprend à composer avec les hasards ou on s'en accommode ?
On les accueille. Il est normal, si on est un écrivain, un artiste, de vouloir tout contrôler dans son œuvre, de tout bétonner, je pourrais dire. Mais il faut accueillir aussi ces hasards qui apportent la vie. Parce que si on oublie ces hasards, ces imprévus, l'accidentel, on a quelque chose d'un peu trop contraint, d'un peu trop hermétique. Et le vent de la vie ou le souffle de la vie, c'est le hasard qui va l'apporter, je crois.
Et pour nous qui ne sommes pas écrivains, le hasard, qu'est-ce qu'il apporte dans nos vies ? On parle souvent du fait que ce n'est pas un hasard, que tout arrive comme ça, que c'est un destin finalement. Vous croyez
Je
à
pense
ça,
qu'il il en est de même dans la vie. C'est-à-dire que dans la vie aussi, on peut avoir un but dans la vie, le souhait d'arriver à quelque chose, mais qu'il faut accueillir favorablement tous les hasards qui se présentent à nous.
Très bien. On va laisser la parole à nos libraires qui sont en multiplex. Jean-Philippe Toussaint, vous le savez, ils ont lu votre livre. Trois ont lu votre livre. Et on commence par la France, Grégoire Courtois à Auxerre.
Bah écoutez, moi je dois dire que j'ai été un peu déstabilisé par le parti pris du livre, ce que vous venez d'expliquer, en fait cet entre-deux qui est certes complètement assumé, mais moi en tant que lecteur j'ai eu un peu de mal à trouver ma place entre des passages qui étaient d'après moi assez anecdotiques, et puis la chair du livre qui était complètement passionnante et que vous venez d'évoquer. Ce qui m'a permis quand même d'aller jusqu'au bout et de me réjouir beaucoup de ce livre, c'est le personnage de Jean-Philippe, un pince sans rire complètement décalé, qui est là pour le coup très très attachant et souvent très drôle.
Bah c'est Jean-Philippe Toussaint, forcément.
C'est le
personnage. Marie-Noël Blé, au Canada, un avis mitigé, paraît-il.
Oui, un avis mitigé. Je suis un peu de l'avis de Grégoire. Mais seulement, j'ai été un peu agacée au départ par les commentaires forçant la complicité avec le lecteur et insistant de mon goût un peu trop lourdement sur la littérature en train de se faire. Puis, j'ai pas vraiment été captivée par les histoires pesantes de tournage en Chine avec l'éditeur chinois. Ceci dit, j'ai fini par avoir une grande affection pour les réflexions brillantes sur l'acte d'écriture, de création et puis sur le hasard. Et aussi pour le côté making-of du roman, mais sans jamais tout à fait arriver à m'enthousiasmer pour le récit du tournage en cours.
D'accord. Dominique, pour la Suisse, vous n'êtes pas du tout du même avis que vos collègues libraires.
Du tout. Moi, j'ai vraiment adoré ce livre. C'est exubérant en étant incroyablement délicat. C'est fantasmagorique et pourtant on y croit d'un bout à l'autre. Et c'est d'une écriture ciselée dans ses moindres détails. Moi, j'ai trouvé que c'était une vraie merveille et qui nous montre entre autres que presque sans l'aide du langage et dans des conditions pour le moins difficiles, il est toujours possible de créer.
Moi, je suis d'accord avec la libraire suisse.
Ah bah oui. je comprends. Incroyable.
Je voulais juste dire un mot. Ce côté, je comprends qu'on puisse être désarçonné par ce côté anecdotique du sujet. Mais en fait, ça m'a toujours intéressé dès mes premiers romans. En fait, j'ai revendiqué ce côté quasiment travailler sur le banal, sur le quotidien, sur les toutes petites choses.
C'est ce qui déstabilise chez vous d'ailleurs, Jean-Philippe.
Voilà, c'est ça.
Mais on peut détester votre œuvre à cause de ça.
Je comprends bien. Mais en même temps, c'est le défi pour moi parce que comme je travaille la langue, comme je travaille la littérature, finalement, ça ne me dérange pas de prendre des sujets qui ne sont apparemment pas des grands sujets porteurs. Mais je pense que je peux faire passer beaucoup de choses en prenant des sujets qui sont apparemment très anodins.
Et puis, il y a des thèmes sous-jacents. Comme ça, on parlait du hasard. Il y a aussi la dictature de l'esthétique. En tout cas, c'est mon interprétation de ma lecture, Jean-Philippe Toussaint. C'est que pour ce film, vous cherchez une femme plantureuse afin de la faire défiler nue, enduite de miel et entourée d'abeilles. Il y a cette quête comme ça de la femme idéale, la recherche d'un apiculteur en Chine. C'est assez épique d'ailleurs. Et cette réflexion sur la bêtise. Parce que lorsque l'artiste, vous, en l'occurrence, Jean-Philippe Toussaint, le créateur, décide de lancer ce projet, ça finit mal et on se demande au final à quoi ça sert. C'est peut-être plus intéressant de créer, finalement, d'imaginer la création que d'avoir un résultat qui finit par être inepte.
Oui, je suis pas dupe. Très souvent, je me suis observé, je me suis vu un peu cet intellectuel en Chine, entouré d'assistants qui regardaient sur des téléphones portables des jeunes femmes dénudées et qui faisaient la fine bouche en disant non, ça là, elle est pas terrible. C'était un peu cocasse, en effet, je m'en rendais bien compte. Et tout ce que j'ai vécu là-bas était toujours tout à fait saugrenu.
Mais bon, saugrenu, c'est les abeilles collées à la pauvre mannequin nue, enduite de miel, quoi.
En effet, et puis cet apiculteur du Guangdong qui ressemble, qui est un sosie de Henri Salvador. Ouais, c'est quand même assez étonnant. C'est le, je vous jure, le type, c'est vrai. Henri Salvador. Et sauf qu'il parle chinois, et donc c'est un peu surprenant, je le regarde. Et j'ai bien conscience que parfois j'étais un peu ridicule dans cette histoire. Mais j'ai quand même fait travailler très sérieusement. Même si je savais que j'étais bien un sûr. Peu ridicule, je voulais aboutir à quelque chose et j'ai travaillé sérieusement.
Et le film est-il ridicule?
Parce qu'on peut le voir. Il est remarquable.
C'est 8 minutes, hein, c'est un court-métrage. Voilà. Vous donnez l'adresse internet à la fin, sur la dernière page, et on peut aller voir le film.
Oui, le livre se finit, le film commence. En effet, ouais. c'est
remarquable.
Je passe, c'est mon avis, mais je comprends très bien que tout le monde n'ait pas cet avis-là.
Bon, merci beaucoup Jean-Philippe Toussaint. Vous restez bien sûr avec nous. Made in China est paru aux éditions de Minuit. À vous qui nous écouter, de vous faire une opinion à travers le monde. À suivre, un hommage à l'écrivain suisse Philippe Ramy, décédé prématurément le week-end dernier. Et deux livres, essais et BD autour de la vie sexuelle au Maroc, analysés par la journaliste écrivain franco-marocaine Leïla Slimani. Avant cela, voici une chanson douce signée Juliette Armanet. Chanson douce. Ça me rappelle un truc. Non ?
Non,
je sais pas. Je sais pas, je sais plus. Allez, on écoute Juliette.
Flèche en opale dans mon eau. Tout métal au visage pâle, drôle de fleur, un indien dans mon cœur. Flèche en platine dans ma poitrine, pointe sanguine, épaule féline, drôle de fleur, un indien dans mon corps. C'est lui.
Juliette Armanet avec l'Indien sur votre radio francophone.
La librairie francophone, une émission coproduite par les médias francophones publics.
RTS la première.
RTBF la première.
Ici Radio-Canada première.
France Inter.
C'était un homme d'une grande délicatesse qui osait dire les choses sans embâge. Un écrivain qui avait intégré sa maladie et qui revenait sans sourciller sur ses fautes commises par le passé ou qui assumait son regard parfois acerbe sur notre monde. Philippe Ramy était un écrivain suisse très apprécié, auteur d'une dizaine d'ouvrages, dont deux romans très remarqués, Allegra et Béton armé. Il est mort dimanche dernier des conséquences de sa maladie. On se souvient d'un homme plein de courage, de volonté et de joie. Dans son fauteuil roulant, il nous a donné de vraies leçons de vie quand il venait dans notre studio. Et bonjour Philippe Ramy.
Bonjour Manuel Kerad.
Soyez le bienvenu, vous êtes un auteur suisse aux origines franco-égyptiennes et allemandes. Vous évoquez votre vie et ses origines d'ailleurs dans Béton armé, paru aux éditions de la Table Ronde. Mais surtout, vous racontez un voyage à Shanghai, votre premier grand voyage. Et vous dites, je ne sais pas voyager. Il y a une méthode pour voyager ?
Il y a les présupposés qu'on se fait avant de s'embarquer dans ce genre d'expédition. Lorsqu'on a passé une grande partie de son existence sans être mirabiliste et sortir les violons et les larmes. Mais j'ai passé vraiment toute mon enfance et toute mon adolescence au fond d'un lit. Et j'ai voyagé beaucoup par la pensée, j'ai voyagé beaucoup dans les livres. J'avais une mère qui me lisait beaucoup, beaucoup d'histoires, qui ne pouvait pas me prendre dans ses bras parce que j'ai une sorte de coquetterie génétique qui fait que je me brise au moindre souffle. Je me suis cassé les os en faisant tout et n'importe quoi et surtout rien, en dormant par exemple.
La maladie des os de verre.
Des os de verre, oui. Et donc ma mère, ne pouvant pas me bercer, me prendre dans ses bras, me berçait d'histoires. Elle m'a comme ça caressé durant toute cette enfance et toute cette adolescence.
Donc c'était ça votre voyage à vous ?
C'était ça mon voyage.
Le voyage à travers la littérature.
C'était ça. Et donc, lorsque je me suis retrouvé dans un état physique assez récent qui m'a permis d'envisager de quitter cette vie d'intériorité, cette vie d'immobilité, pour m'envoler vers la Chine, je me suis embarqué.
Philippe Ramy, est-ce que le fait d'avoir écrit ce livre, cette sorte de livre de bord, est-ce une façon pour vous de résister face à votre maladie, de vous renforcer, peut-être comme vous le faisiez enfant avec les lectures de votre mère ?
Je ne me renforce pas, mais je reviens à cette idée de retournement. Je reviens à cette idée de me dire pourquoi est-ce qu'on voyage. J'en sais rien. À nouveau, je ne sais pas voyager. Je ne sais pas pourquoi je voyage. Mais le voyage n'est pas un but en soi. Le voyage est un moyen. Le moyen d'aller chercher quelque chose. Et je me suis retrouvé durant toutes ces premières années à lire beaucoup, à faire de la poésie, à être beaucoup plus introspectif. Et donc à guetter le langage comme on guette le canard à l'affût. Et pour le coup, je suis devenu une sorte de traqueur. Bon, un traqueur boiteux, un traqueur bancal, tout ce que vous voudrez, désarmé.
Mais un traqueur quand même.
Mais un poursuiveur, un fouineur, mettons. Un fouineur un peu émerveillé.
Voilà, on est tous très tristes de cette disparition prématurée. Vous pouvez retrouver le livre de Philippe Ramy, Béton armé, en poche chez Folio. Il venait de publier un nouveau roman, Monarque, aux éditions de la Table Ronde. On avait prévu de le recevoir pour ce livre, on n'a pas eu le temps. Philippe Ramy était trop pressé. Il va manquer donc à la littérature suisse, il va nous manquer ici. Je sais qu'il aimait beaucoup les voyages, alors on lui souhaite le plus beau voyage possible. Philippe Ramy avait 52 ans.
العمار رزاق معدودة الأقدار والدهر يعجب في لا نكسب رزقي
Leïla Slimani est dans la librairie francophone pour un essai et une adaptation de cet essai en bande dessinée. Il est question de la vie sexuelle au Maroc. Le Maroc qui a encore aujourd'hui des articles de loi punissant l'avortement, la nudité, l'homosexualité et même le flirt dans une voiture ou dans une forêt, Leïla.
Oui, pour être plus précise, le code pénal donc punit l'homosexualité de prison, les relations sexuelles hors mariage et également l'adultère. L'avortement est permis, mais très très restreint, dans des conditions très restreintes, qui sont le viol et l'inceste. Il faut que le viol et l'inceste aient été prouvés d'abord dans une cour de justice, donc enfin c'est très compliqué. Et en cas de mise en danger grave de la santé de la mère.
Alors c'est une tournée au Maroc pour votre premier roman, Le Jardin de l'Ogre, publié en 2014, avant Chanson douce, voilà c'est ça, que vous avez recueilli les témoignages de jeunes femmes venues vous parler de leur sexualité. Votre roman faisant référence à ce sujet avec un personnage nymphomane. Et le Maroc a un réel problème avec la sexualité, mais ce n'est pas le seul pays au monde d'ailleurs.
Non, pas du tout. Je crois que partout dans le monde, finalement, le corps de la femme, la question de la sexualité de la femme est problématique, avec une proportion, une ampleur plus ou moins grande. Au Maroc, effectivement, on est dans une période un peu de transition. On est dans un moment tout à fait étrange où les pratiques sexuelles ont beaucoup évolué, ont changé, se sont libéralisées d'une certaine façon, mais où les normes, elles, n'ont pas du tout changé.
Mais alors du coup, on vous attaque un peu, Leïla, parce que à la fois du côté du Maghreb, mais aussi en Occident, vous en parlez dans le livre, on vous traite d'islamophobe pour certains Français, on vous traite aussi de vendu à l'Occident, alors ça ce sont les islamistes, c'est compliqué pour vous de vous exprimer sur le sujet.
Non, pas vraiment, je m'exprime quand même. Mais de toute façon, ça c'est les critiques habituelles, je crois que...
Habituelles ?
Bah, pour tous les intellectuels maghrébins qui défendent un peu des valeurs considérées, en tout cas que nous on considère comme universalistes, on se fait toujours taper sur les doigts d'un côté comme de l'autre de la Méditerranée. Il faut y être prêt, il faut l'accepter, et puis il faut regarder de l'avant et écouter aussi tous les gens qui vous disent s'il vous plaît, n'ayez pas peur et ne soyez pas pris en otage par ces critiques-là, parce que ce qu'on défend derrière est tellement plus important que ses critiques, donc voilà.
Alors, vous parlez de cette ambivalence, Leïla Slimani, l'obsession pour le sexe, aussi bien chez les hommes que chez les femmes, et ces lois qui interdisent le sexe. Il y a Jamila, une nounou, qui vous dit « Tout ça ne sert pas la cause de l'islam, ça ne sert qu'une seule chose, celle des hommes ».
Oui, parce que elle me raconte de son point de vue de femme vivant dans un quartier populaire, qui a été témoin d'avortements clandestins multiples, qui a été témoin d'agressions sexuelles au sein des foyers, de viols conjugales, de choses comme ça qu'elle connaît, qui sont son quotidien, qu'elle a entendu de la part de ses amis, au hammam ou dans la rue. Et cette femme-là me dit, ils ont beau dire, oui, j'ai une sorte de légitimité parce que le Coran le dit ou la religion, elle était tout à fait lucide et tout à fait consciente du fait que ça servait surtout la cause des hommes et de la domination masculine.
Il y a un policier à Rabat aussi qui se confie à vous et qui vous dit « Le sexe au Maroc, c'est un commerce très très juteux. Ça profite à la police, à tout le monde. On rackette les prostituées, les couples amoureux, les couples adultériens. Il n'y a pas de morale là-dedans, pas de religion. C'est la loi du fric. »
À ça, la question de l'argent est très importante et moi je m'en étais pas rendu compte à ce point au départ, mais je dirais que la misère sexuelle c'est un capitalisme comme un autre. Il y a d'abord le commerce des avortements clandestins, donc il y a beaucoup de médecins qui pratiquent ces avortements, ils sont payés en cash, ils sont payés très cher puisque c'est interdit et donc ils peuvent faire d'une certaine façon des enchères. Il y a les hyménoplasties qui coûtent beaucoup d'argent, il y a des jeunes filles qui économisent pendant des années pour se faire refaire l'hymen. Il y a maintenant le commerce des petites poches de sang, de faux sang que l'on s'insère dans le vagin le soir de la nuit de noces, parce qu'il faut savoir qu'au Maroc, il y a, comme dans beaucoup d'autres pays, des suicides les soirs de nuit de noces, parce que les jeunes filles sont humiliées. Là, à Marrakech, en juin, une jeune femme de 21 ans a sauté par la fenêtre de la chambre où elle a vécu sa nuit de noces, après avoir été accusée par le mari et les beaux-parents de n'avoir pas été vierge, et elle s'est suicidée. Voilà, la misère sexuelle, elle engendre aussi, évidemment, un capitalisme et un commerce.
Et vous rappelez, Leïla, des choses très importantes, comme le faisait d'ailleurs le regretté Malek Chebel, à qui on pense vraiment beaucoup quand on lit votre essai. C'était notre ami dans la librairie francophone. Et on l'a beaucoup entendu ici. Et il parlait, Malek, tout le temps. Il a toujours souligné l'érotisme des cultures islamiques. Et il rappelait, lui aussi, mais on vous le dit aussi, il y a des artistes qui vous le disent, ce sont les Arabes et les musulmans qui ont choqué l'Occident au XVe siècle avec leurs écrits érotiques.
Mais bien sûr, et c'est pour ça que je pense que c'est très important de ne pas tomber dans le piège des islamistes qui nous disent constamment, vous savez, l'islam c'est la même chose en tout temps, en tout lieu, rien ne bouge, nous ne sommes que musulmans, ça nous définit et rien ne peut évoluer. Nous sommes aussi des êtres historiques et la civilisation islamique, elle a connu, tout comme la civilisation chrétienne, elle a connu des changements, des modifications, elle a été à un moment une culture profondément érotique qui a valorisé le corps, qui a valorisé même le vin, qui a valorisé les amours homosexuels. Par exemple, quand on relit La recherche du temps perdu, il y a un passage où Proust raconte que sa mère veut lui offrir Les mille et une nuits et elle hésite énormément parce qu'elle trouve que c'est un texte beaucoup trop licencieux, que c'est un texte qui justement valorise l'homosexualité. Et pour elle, c'est vraiment choquant. Pour eux, l'image des pays musulmans, c'était les pays de la décadence.
Et le Coran, pareil, il est interprété. Peut-être même que le Nouveau Testament est plus prude que le Coran, parce qu'il faut rappeler quand même qu'à part Marie-Madeleine, la prostituée, Jésus est né de la Vierge Marie, qui n'a pas...
Bien sûr, sûr, il n'y a pas beaucoup sexuel. de figures de femmes sexuellement actives.
Non, du tout. Trois libraires ont lu votre essai, Leïla Slimani. Canada ou Suisse, qui choisissez-vous?
Oh là là, c'est pas sympa de me faire choisir. Bon, je choisis le Canada.
Vous aurez les deux, bah.
Voilà, j'ai fait dans l'ordre alphabétique.
Allons-y. Marie-Noël Blé, à Montréal.
Comme vous avez dit, le problème que vous dénoncez déborde largement les frontières du Maroc et du monde musulman. Il peut aussi nous mettre en garde d'un retour du puritanisme de notre côté aussi en Occident. Le grand intérêt de ce livre est aussi qu'il nous invite à un devoir de réflexion urgent quant à la façon d'élever les enfants. Une lecture éclairante et très bouleversante.
Dominique Bressoux pour la Suisse, êtes-vous d'accord?
Oui, alors moi j'ai un seul reproche, c'est le titre en fait du livre.
Pourquoi?
C'est parce que s'il peut appâter certains pour des mauvaises raisons, genre sexe et mensonges, tout ça, il peut en repousser d'autres et ce serait dommage. Parce que ce n'est pas seulement de vie sexuelle dont vous parlez, mais aussi en filigrane des relations amoureuses au Maroc et de l'espèce de schizophrénie qui règne dans cette société où les règles ne sont clairement plus adaptées à la vie moderne.
Le Maroc, cinquième consommateur de pornographie sur Internet, c'est ce que vous racontez aussi. Des actes ridicules aussi, comme cette interdiction ordonnée par des intégristes. La femme ne doit plus toucher concombres et bananes. Ou encore ces deux conservateurs, Omar Ben Hamad et Fatima Nejjar, hommes et femmes publics, qui combattent ce qu'ils appellent le vice et qui vont se faire prendre en plein délit d'adultère. Tous les deux ensemble.
C'est une histoire à la fois drôle et absolument pathétique et très triste, puisque ce sont deux personnes qui ont une soixantaine d'années, que lui est marié avec 6 enfants, elle est veuve, il a une barbe jusque-là, elle a un voile très serré, ils font des prêches contre la fornication, contre Facebook qui est un instrument déviant, et ces deux personnages se retrouvent comme tous les couples amoureux du Maroc, sur le bord d'une plage, à l'aube, dans une voiture, en train d'avoir une relation sexuelle, se font arrêter, humilier, leur vie intime se retrouve étalée partout. À la fois, ça fait rire parce que c'est des tartuffes, donc ce sont les gens qui se font arrêter alors que condamner ça. Et en même temps, c'est pathétique parce que ces gens, finalement, se disent à 60 ans de même pas pouvoir avoir un lieu pour pouvoir se retrouver, pour pouvoir vivre quelque chose d'aussi simple que l'acte amoureux. Donc moi, j'ai écrit une chronique pour les défendre, ce qui les dérange énormément vu que je suis tout à fait à leur opposé, mais je leur ai dit voilà, merci, vous êtes des symboles de la misère sexuelle au Maroc.
C'est de la provocation.
Non, moi, jamais.
Elton John accusé d'homosexualiser le pays aussi. Jennifer Lopez accusée d'outrage à la pudeur quand elle se produit au Maroc. Shakira jugée pornographique. Bon, ça encore,
oui. Oui, mais ce qu'il faut dire quand même, ce qu'il faut ajouter, c'est qu'à chaque fois qu'il y a ça, il y a aussi toute une partie de la société marocaine qui se soulève, qui sort dans la rue, qui se mobilise, qui défend. Quand il y a des homosexuels qui sont arrêtés, il y a des centaines et des centaines d'avocats qui se rendent au tribunal, qui disent « on vous défend gratuitement, ça ne passera pas ». Donc il faut aussi montrer l'autre versant. Donc il n'y a pas que ces conservateurs, il y a aussi d'autres gens. Et il y a un débat aujourd'hui passionnel, parfois violent, mais il y a les deux versants.
Annick Dor est en Belgique, elle a fait une lecture attentive de votre essai, Leïla Slimani. Annick?
Oui, ben voilà, ben c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire sur votre livre. Ben moi, il y en a en tout cas une qui m'a frappée parmi tant d'autres, mais c'est le fait que ne pas faire évoluer la législation, vous montrez que c'est plus un choix presque politique que moral ou religieux. On maintient une frustration sexuelle pour empêcher finalement les gens de se rebeller contre leurs conditions de vie.
Je dirais pas que c'est quelque chose d'aussi réfléchi, je pense pas que c'est à ce point intellectualisé, mais disons qu'il y a quelque chose de l'ordre d'un peu de l'opportunisme. On regarde à chaque fois comment réagit la société et puis on décide en fonction voilà, des réactions plus ou moins épidermiques de la société. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas totalement accepté la construction d'un individu marocain qui serait un citoyen à part entière, qui ferait ses choix, qui s'émanciperait, qui pourrait critiquer, qui aurait une vie intime, une vie privée sur laquelle il n'aurait de compte à rendre à personne. Il faut construire d'une certaine façon un corps de Marocain qui n'appartiendrait à personne d'autre qu'à lui-même.
Et puis il y a un gros risque à entretenir ces privations sexuelles. Vous dites que les jeunes issus de milieux populaires, souvent au chômage, n'ayant pas accès à la culture et de surcroît frustrés sexuellement, peuvent aller tout droit vers le piège tendu par l'islamisme radical.
Alors ça, c'est ce que me dit quelqu'un. À un moment, j'interroge un journaliste marocain qui me dit ça et qui me dit que lui, qui fait beaucoup de reportages, qui est sur le terrain, voit qu'effectivement cette frustration ajoutée au chômage de masse, ajoutée à l'absence de effectivement d'offres culturelles, de loisirs, parce qu'il faut voir aussi ce que c'est que les quartiers défavorisés des grandes villes marocaines. Ce sont des quartiers où la vie est très très dure, où pour ces jeunes il n'y a parfois rien à faire, où il n'y a aucun espace pour l'intimité. On vit dans des maisons où on est très très nombreux, où on n'a pas même une petite chambre à soi. C'est voilà, c'est le principe de l'idée de Virginia Woolf. Je crois que là vraiment elle s'applique, avoir une chambre à soi pour penser, pour se construire, pour s'émanciper. Et effectivement, ça peut amener soit à la violence urbaine, soit au radicalisme, bien sûr.
Merci beaucoup Leïla Slimani. Votre essai « Sexe et mensonges, la vie sexuelle au Maroc » et la BD « Paroles d'honneur » réalisée avec Laetitia Corinne sont publiés aux éditions Les Arènes. Merci pour votre fidélité indéfectible.
Merci
Leïla.
À vous.
Merci beaucoup. Vous connaissez la Russie ?
Je connais la Russie, j'adore la Russie.
C'est vrai
oui.
Bon, on va en parler dans quelques instants. À suivre les libraires tous ensemble d'abord pour leur coup de cœur et leur coup de gueule et un voyage en Russie donc avec Vincent Pérez et Olivier Rollin. Voici le chanteur Kabil Idir et le franco-arménien Charles Aznavour pour une reprise d'un titre que vous allez tous reconnaître. Merci à vous d'écouter la librairie francophone à travers le monde.
ديك سافرتي خركان اداو تجيلي ورنيك سيفي مليان ولا صردي يفلن نتصرف كندي طمزير ونحس بدك وسان وريلي وغدي شقان سوا كم ذنكني لا بوهم لا بوهم هذا سنخار ما راح بس تيري لا بوهم لا بوهم أسنت الله توام بنت مزي نكي كات خسني تراكم ترني راس شنام ولا شسني خور نجي أصنر والميزيريا نسارة ما زكا قتابور تسنالي أدن بندي ثمورا غنى وذكرى نبغى مدوينة كوين تسمني نتسير ذي ترقى نومن تلموزيقى دي مديازن مثل اللي لا بوهم لا بوهم ما ظفر ثلقيت أكيني ذيزي لا بوهم لا بوهم وليت وزدا وما ذي اللي جيبي زوي ثمدي ثنال صبون تقصر دقمي طرومي وكنا دناوي منسي من ميت ثغلي ضرو أنزل سبس ضرو قدين تغيبي مين عين نستعفو تخمتات ابني خروبة بس يقبل سكريدي تفرانا ما تثرزو أذيث برنا ندو أبريدة تنوي لا بوهم لا بوهم بالنوبة أسد نفلالي لا بوهم لا بوهم ألا غيت شو رمضى الرايروي Souvent il m'arrivait devant mon chevalet de passer des nuits blanches retouchant le dessin de la lignée d'un sein du galbe d'une hanche Et ce n'est qu'au matin qu'on s'asseyait enfin devant un café crème Épuisé mais ravi, fallait-il que l'on s'aime et qu'on aime la vie? La bohème, la bohème, ça voulait dire on a vingt ans. La bohème, la bohème, et quatrième sourd. Rallumez mes larmes.
Charles Aznavour avec Idir. Le titre, Leïla, Vincent Pérez,
la bohème.
La bohème, oui, tu dis ça comme ça. Dépité, bah, la bohème. Et c'est évident, enfin. Et oui, c'est évident. La bohème sur ici Radio-Canada Première, RTBF la première de la RTS et sur France Inter.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
La chronique des libraires dans cette plus grande librairie du monde, tous ensemble pour leur coup de cœur et leur coup de gueule. On commence avec le coup de gueule de Dominique Bressoux, énervé par le gaspillage, Dominique.
Absolument. Et puis en plus, je vous ai inventé le coup de gueule à rallonge. Parce que je reprends ce qu'a dit Grégoire dans une émission précédente.
Ah oui, là, faut suivre.
Où il nous a parlé d'une étude montrant les dégâts causés par l'appât du gain dans l'édition, mm-hmm. à savoir l'impression des livres faits dans les pays lointains.
Oui, au Brésil notamment.
Voilà.
Enfin, avec la pâte à papier qui vient du Brésil et qui déforeste.
Mais il y a des solutions pour moins polluer notre planète. Par exemple, en évitant les supermarchés du livre et leurs monstrueuses piles de best-sellers dont un quart finiront quand même au pilon, et fréquenter les librairies indépendantes beaucoup plus attentives à leurs choix.
Exactement, il faut fréquenter les librairies indépendantes, il y a de très bons best-sellers aussi. Hein.
Oui, ah, mais j'ai pas dit ça.
Chansons douces, par exemple.
Mmh, absolument, absolument. Mais ça, même les libraires indépendantes le prennent en pire.
Oui, c'est vrai, c'est vrai.
Autre chose.
C'est autre chose. Grégoire pour la France, petit hommage hein, au passage à Grégoire. Le livre de poche est économique et plutôt écolo, et c'est un coup de cœur chez vous, Grégoire.
Bah ouais, c'est un coup de cœur. Et puis, comme on parle d'hommage, je vais rendre aussi hommage à un grand monsieur de la littérature française qui s'appelle Maurice Ponce, qui s'appelait Maurice Ponce parce qu'il est mort l'année dernière, auteur du cultissime Les Saisons. Si vous n'avez pas lu Les Saisons, il faut le lire impérativement. Et là, je vais vous parler plus particulièrement du Passager de la Nuit, parce que c'est un bouquin qui est sorti en 1960 et il n'y avait pas encore eu d'édition poche. Ouais. C'est la première fois. Et ouais, ça sort chez Point, là, ça vient juste de sortir. Et c'est assez étonnant parce que c'est un roman absolument incroyable. Vous voyagez à 130 km/h sur les nationales françaises. On est en pleine guerre d'Algérie et le narrateur donc prend un monsieur un peu basané, on va dire, et c'est très très mal vu à cette époque-là. Et vous découvrirez bien sûr pourquoi au fur et à mesure de ce long voyage.
Très
c'est
bien.
Superbe. Et voilà.
Le Passager de la Nuit aux éditions Point. Merci Grégoire. Autre coup de cœur avec Annick Dor en Belgique dans le rayon des polars.
Oui, un coup de cœur pour Coco Givré, donc que l'on doit à la belge Nadine Monfils. Voilà.
C'est un poche aussi, ça, non ?
C'est aussi un poche.
Oui, parce qu'il est sorti il y a quelques temps.
Ouais. Tout à fait.
Allez-y, oui.
C'est chez Pocket. Et donc, dans ce livre, bien, il y a un côté grand guignolesque avec des crimes sanguinolents à la limite du kitsch. Ça peut évidemment déstabiliser certains lecteurs, mais je pense que c'est peut-être aussi l'occasion de sortir finalement de notre zone de confort et de découvrir bien autre chose que ce qu'on a l'habitude de lire en matière de polar.
Très bien. Nadine Monfils, qu'on connaît bien dans cette émission. Coco Givré aux éditions Pocket. Merci beaucoup, Annick. Marie-Noëlle Blé pour le Canada. C'est un coup de gueule. Vous, ce sont les jeunes auteurs qui vous agacent. Alors là, va falloir nous expliquer.
Bon, pas que. Hein.
Pas que.
Non, c'est un coup de gueule, mais vraiment plein de bienveillance, je tiens à le dire. Mais un coup de gueule quand même pour les visites quasi mensuelles donc, de certains auteurs. Mais en effet, souvent, ce sont des primos écrivains qui errent de librairie en librairie pour, un, s'assurer que leur livre est toujours là et bien en vue. Et bien sûr, pour savoir combien d'exemplaires ont été vendus dans notre librairie.
Oui.
C'est vrai que ça nous place toujours dans une position un peu délicate, celle d'être le méchant libraire qui n'a pas gardé une pile du livre en question,
mais
si on n'en a pas vendu depuis 6 mois.
Ouais. Enfin, les pauvres, c'est normal, tout le monde a dû faire ça. Leïla, vous êtes allée dans les librairies
J'avoue.
C'est vrai, ben oui. Pour voir s'il est là et tout, mais oui, c'est normal. Bon, bref, je ne sais pas si on va vous pardonner, Marie-Noëlle. Merci à vous quand même. Allez, continuons.
Je trouve qu'on ne peut pas faire de la bonne photographie comme on ne peut pas faire un autre art, exercer un autre art, sans avoir une conscience de ce qu'on fait et sans avoir une morale et même une éthique. Et je pense que les bons photographes ont toujours, au contraire, une réflexion et une compréhension de ce qui se passe. Et s'il n'y a pas ça, il n'y a pas photographie.
Vincent Pérez et Olivier Rollin sont dans la librairie cette semaine pour un voyage en Russie paru aux éditions Delpire. La voix de Robert Delpire, disparu la semaine dernière, qui a beaucoup œuvré pour la photographie et pour tous les photographes, avec notamment la collection Photopoche, référence absolue qui a démocratisé les livres de photos, les rendant accessibles à tous. Vous qui êtes un passionné de photographie, Vincent Pérez, évidemment Delpire. Quand on publie chez Delpire, c'est quelque chose ?
Oui, c'est vrai que quand je dis autour de moi à mes collègues photographes que mon livre aux éditions d'Elpire, je vois la réaction. Mmh. Moi, je ne me rendais pas compte que c'était à ce point-là une référence absolue dans le monde de la photographie en France.
Il a publié Doisneau, Cartier-Bresson, plein d'autres.
Exactement. Et c'est vrai qu'il y a une sorte de passage assez étonnant, vu que le livre sort maintenant, et puis au moment de son décès. Ouais. Donc, voilà.
Bon. Vous avez tous les deux, avec Olivier, une attirance particulière pour la Russie. Vous avez fait 4 étapes. Une des villes les plus au nord de la Russie, Arkhangelsk, comme on prononce comme ça, Saint-Pétersbourg, une ville au nord de la Mongolie, et Astrakhan. C'est une Russie très sombre que vous photographiez, que vous racontez, un peu à l'image de ce personnage Ivan, Olivier Rollin, qui selon vous exprime sur son visage un désespoir sans fond.
Oui, ben c'est pas un pays très gai, la Russie, hein. C'est quand même.
Oui, on voit. Ouais, oui.
C'est un régime pas très libéral. C'est un climat pas très facile. C'est un pays puissant mais très pauvre. C'est un pays à moitié en ruine. Enfin voilà. Oui, il y a beaucoup de visages ravagés, beaucoup de visages. Mais d'un autre côté, je crois pas qu'on ait essayé de prouver quoi que ce soit. Et notamment pas. C'est pas non plus un livre à charge. C'est pas un livre pour décrire une Russie misérabiliste. Il y a aussi des gens.
Mais non,
il y a,
pas
il y a
dit
des
ça,
filles hein, très belles. Il y a des. Ça n'est pas qu'un pays triste, c'est aussi un pays très accueillant.
Alors vous le rencontrez, cet homme, dans un club de vétérans du travail, un club du troisième âge en somme. Ivan est le seul homme de la réunion et tout le monde semble touché par votre présence. Et votre départ se fait en chantant. C'est très joyeux.
Oui, c'est vrai. Oui, les vieilles femmes se mettent à. Enfin, elles ont bu un peu de vodka, tout ça. Elles sont contentes. Elles sont contentes qu'on vienne les voir et tout. Et elles chantent Katyusha, donc qui est une chanson célèbre en Russie. Et elle nous demande de chanter quelque chose, et naturellement, mes copains se dégonflent, et donc c'est moi qui suis obligé de m'y mettre. Et comme je veux pas leur chanter de l'Aznavour, j'ai quand même Katyusha, c'est une chanson patriotique, alors je leur chante le chant du départ. Voilà. Ne me demandez pas de le faire maintenant au micro, je vous en prie.
Bon, si, s'il vous plaît, un petit bout, un tout petit.
Dans la victoire, en chantant, on nous ouvre la barrière, la liberté guide nos pas. Ben non, vous n'allez pas m'arrêter maintenant. Hein.
La Katyusha, c'est incontestablement la BO du livre, Vincent Pérez.
Ah oui, oui, oui.
C'est des moments étonnants. Je me souviens, cet Ivan, à un moment donné, s'est retourné vers moi et il s'est mis à pleurer en me regardant comme ça. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui vous arrive? Et il me dit, mais vous comprenez, j'ai perdu ma femme, j'ai perdu mes enfants, tous les gens que j'ai connus autour de moi sont partis et moi, je n'en peux plus, je veux mourir. Vous comprenez, je veux mourir. Waouh! Donc, c'est ce genre de discussion qu'on a au bout de 2 verres de vodka.
Vincent Pérez et Olivier Rollin, vous notez la grande hospitalité des Russes. Dès le début du livre, vous racontez qu'il est impossible de rendre visite à quelqu'un sans boire un petit verre, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et un dernier pour la route.
Mais moi j'avais une bonne excuse parce que comme je devais faire des photos et que en général les photos on les faisait après la discussion pour créer un lien, donc du coup je trempais mes lèvres sur le premier verre de vodka puis ensuite je laissais Olivier.
C'est Olivier
qui moi je n'avais aucune excuse et je ne cherchais pas d'excuse.
Et qu'est-ce que c'est que cette histoire d'Olga, Vincent, parce que Olivier raconte quelque chose sur vous. Vous avez eu un coup de foudre pour Olga?
Bah oui, mais ça c'est Olivier qui, je pense, qui était un petit peu jaloux ce jour-là. C'est vrai qu'elle me, je sais pas, il y a un truc qui s'est un peu passé.
Si j'avais été jaloux, couillon, je n'aurais pas écrit dans le livre.
Non, elle était charmante, elle était vraiment charmante. C'est vrai qu'on était tous les deux sous son charme, on peut le dire.
Qui a gagné?
Il n'y a pas eu de... À ma connaissance, il n'y a pas eu de résultat de la partie.
Et face à la rudesse de la vie des Russes, la rudesse du climat, il y a un homme qui vous dira à Oulan-Houd, c'est pour ça que personne ne peut conquérir la Russie. Rien ne marche chez nous. Nous sommes un peuple incompréhensible. Qu'avez-vous compris de ce peuple, Vincent Pérez?
La vastitude du pays, la diversité des ethnies rend la tâche un peu difficile. C'est vrai que c'est difficile de comprendre ce peuple qui est si vaste et si varié. Moi, le sentiment que j'ai avec tous ces voyages, c'est que la Russie est comme une épave dans un fond marin où la vie a repris tout autour. Voilà, c'est un peu l'image que j'ai de la Russie. Et puis cette incompréhension entre les Russes et le reste du monde.
Il y a notre libraire Grégoire Courtois qui est en France, qui a regardé les photographies, vos photographies, Vincent Pérez, et lu les textes d'Olivier Rollin. Grégoire.
Bah ouais, mais je vais surtout vous parler des photographies parce que c'est vrai que là vous parlez
des depuis... ravis,
non,
mais...
ça m'aurait étonné.
Non, mais je suis désolé pour Olivier, mais non, mais là vous parlez vraiment de ce qu'il y a derrière les photographies dans cet entretien, ce qui est tout à fait passionnant. Mais moi je trouve que ce qui frappe vraiment, c'est la force graphique de ce livre, hein, parce que il y a cette galerie de personnages, il y a la puissance des paysages que vous avez évoqués. Mais ce qu'on peut pas voir à la radio, c'est que tout est saturé de détails, c'est des textures vraiment très très impressionnante. Et puis bien sûr, moi je connaissais pas le travail d'artiste de Vincent Pérez, mais là je dois dire que je suis assez soufflé parce qu'il y a une vraie composition, il y a des cadrages et un usage du noir et blanc, de la couleur très judicieux. Moi je trouve que c'est un livre graphiquement vraiment impressionnant.
Oui, travail photographique réussi, Vincent.
Merci.
Quelques petites erreurs de cadrage, parfois, quand c'est pris sur le vif, mais bon, ça ne vous en faudra pas. Non, mais si. Non, mais disons les choses. Un petit peu. Mais voilà. Un vrai travail de photographie, un vrai travail, un regard artistique plus que documentaire, non?
Oui, moi, je suis un photographe. J'ai un parcours de photographe. On ne sait pas vraiment, mais j'ai commencé par la photographie avant d'être acteur.
Avec une école, d'ailleurs.
Avec une école
en Suisse puisque
Vevey,
vous êtes suisse.
Oui, donc, moi, mon langage, c'est la photographie. C'est pas les mots, c'est entrer dans la vie des autres.
Ouais. Et à Saint-Pétersbourg, où vous allez, vous rencontrez des gens du cirque. Alors, vous photographiez comme ça ce monde circassien. Et vous dites qu'il y a à la fois une grande tradition du cirque en Russie, mais qu'à Saint-Pétersbourg, on a l'impression que toute la ville baigne dans la culture. Olivier Rollin.
Mais oui, naturellement, je confirme que Saint-Pétersbourg est une grande ville de culture. Mais je peux difficilement, là, c'est la seule étape du voyage dont je peux difficilement parler parce que je n'ai pas accompagné Vincent à Pétersbourg. Donc les circassiens, etc., je ne les ai pas vus. Après, je suis
capable. Ah, vous avez triché.
J'ai triché à un romancier, un écrivain, c'est un tricheur.
Bien sûr.
Mais c'est le seul endroit. C'est le seul endroit. Mais c'est vrai que je voulais un bout d'été. Je voulais une ville comme Saint-Pétersbourg aussi. Ouais, les habitants de Saint-Pétersbourg.
C'était pas assez roots, Saint-Pétersbourg, pour Olivier.
C'est un peu trop convenu.
Oui, c'est ça. C'est ça. Le mot de la fin, c'est pour un libraire. Honneur à la Belgique avec Annick Dor cette semaine.
Oui, alors moi, ce qui m'a frappé dans le livre, c'est la grande complémentarité entre les photos et le commentaire.
Ah, merci.
Parce qu'on a parlé de cadrage, on a parlé de l'aspect plus artistique que documentaire ou ce genre de choses-là. Mais moi, les photos m'ont paru plutôt très, très naturelles. J'ai pas eu l'impression, justement, ou en tout cas, on le sent pas, qu'il y a beaucoup de mise en scène. Et du coup, j'ai eu l'impression, justement, qu'elles nous parlent d'autant mieux qu'on a le texte à côté qui contextualise chaque photo. Et puis en filigrane, on sent évidemment la qualité du travail justement éditorial. On parlait de Robert Delpire tout à l'heure et c'est vrai que c'est l'occasion. Moi, je voulais dire un mot quand même sur la collection Photopoche qu'il a fondée puis qu'il a dirigée. Alors, c'est une collection de référence. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'elle a acquis vraiment toutes ses lettres de noblesse. Je pense qu'il faut quand même vraiment découvrir et acheter au moins une fois un Photopoche pour voir de quoi il est question.
Exactement. Vous avez tous des Photopoches?
Oui, on en a tous vu. Ouais.
Leïla, vous avez un photopoche ou pas, Leïla?
Non.
Non, on vous en envoie un. Je vous en envoie un demain, d'accord?
Okay.
Bon, merci beaucoup. Merci Vincent Pérez. Merci beaucoup. Merci Olivier Rollin d'être venu dans la librairie francophone. Un voyage en Russie est paru aux éditions Delpire. Vincent Pérez, vous serez à l'affiche du film D'après une histoire vraie, adaptation par Roman Polanski du best-seller de Delphine de Vigan qui sortira début novembre.
Début novembre, absolument. Et aussi un film qui sort à Montréal en décembre. Hochelaga.
Très bien. Merci Vincent, à bientôt.
La librairie francophone, Emmanuel Guérad.
Avant de conclure, coup de pouce à une découverte musicale francophone. Voici le rappeur français L'Homme Pâle avec un extrait de Yeux Disent.
Recharge mes batteries, j'ai besoin de ton regard. Recharge mes batteries, recharge mes batteries. Enchanté Antoine, je brise les rêves et les cœurs, mais j'ai un bon fond, promis. Je voulais plus d'air, plus de distance, j'en ai juste un peu trop mis. Assis ensemble sans se dire un seul mot dans le tromé. Je pouvais devenir un artiste alors je l'ai fait. Mais j'ai vu qu'elle avait mal sous le plexus et mes excuses n'avaient plus un seul effet. Aïe, attention à ce que les cerveaux agités promettent. J'ai déjà menti, oui mais le jour où je lui ai dit que j'étais honnête, j'étais honnête. Aïe. Comment on a fait pour atteindre ce stade? Ok, je suis peut-être peu stable. Je sais plus si je veux renaître ou juste être une star. Je me suis perdu comme les lettres de Stan. Un jour elle m'a dit qu'elle souffrait, que c'était terrible dans sa tête. Mais ce jour-là je l'ai pas écouté, j'avais des rimes dans la tête. Je parle trop souvent de ma musique, ça a peut-être un peu empiété. Je lui ai dit qu'elle était pas unique, ce soir elle dort avec sa fierté.
Pas de vengeance, pas de sourire forcé. Dieu dise le contraire, Dieu dise le contraire. J'ai craché des mots tranchants, fille n'a pas été blessée. Dieu dise le contraire, Dieu dise le contraire.
Oups, je l'ai touché dans le cœur. Aïe aïe, je l'ai touché dans le cœur.
L'homme pâle, Dieu dise, titre que vous pouvez retrouver en intégralité sur internet. Et c'est la fin de cette édition. Je vous retrouve sur Facebook et Twitter pour communiquer avec vous. Merci beaucoup Leïla Slimani.
Merci.
Merci Vincent Pérez, Olivier Rollin, Jean-Philippe Toussaint, à très bientôt. Merci. À la réalisation, Henri-Marc Mutel avec Valentin Azan Zielinski, Thierry Dupin à la prog musicale, à la rédaction Jean-Philippe Véré avec Vera Lou de Ride et Alice Jacquelin en France, Martine Béguin-Felé et Annick Chouin en Suisse, René Mikils avec Valérie Lepute en Belgique, Jacqueline Castonguet et Sylvie Julien au Canada. La semaine prochaine, nous serons à Francfort pour la foire du livre de Francfort où la France et la francophonie sont les invités d'honneur, un événement où la librairie francophone représentera les médias francophones publics. Le prix Nobel Jean-Marie-Gustave Le Clézio sera sur notre plateau avec de nombreux invités surprises. Soyez au rendez-vous. Bonne semaine, bon week-end, salut.